ça deux semaines, on vous disait que le printemps s'en venait.
Il s'en vient.
Ouais.
C'est
on
un
parle
petit aparté.
Encore de 2-3 cm de neige pour ce soir et cette nuit, ainsi que demain.
Et puis ça a neigé pas mal.
Donc, on lâche pas. Maximum de plus 2 pour aujourd'hui actuellement sur Québec. On l'a atteint. Donc, on est à 2 degrés. Ce soir, des nuages. 40 % de probabilité d'averse de neige. À minimum de 0. Demain, mercredi, alternance soleil et de nuages. En matinée, on parle de neige. Donc, 2 cm annoncés. Maximum de plus 3. Jeudi, ensoleillé, maximum de plus 4. Et vendredi, ce sera de la neige intermittente. Maximum de moins un. Jérémy Guillot, le spécialiste en politique, il est stratège politique. Salut, comment ça va?
Ça va bien, vous autres?
On est content de te jaser. Beaucoup d'actions au niveau de la politique. Nous autres, à Québec, là, ça brasse au municipal. Beaucoup de gens mentionnent dans les derniers jours qu'ils ne se représenteront pas aux prochaines élections municipales. Provinciales, ça brasse avec François Legault. Et du côté du fédéral, ben là, on est en pleine campagne électorale, tout en étant en négociation avec le Grand Orange, l'autre bord. Il y en a de l'action. Tu manques pas de sujet?
On manque pas de sujet, surtout depuis janvier. Hein. Depuis que Justin Trudeau a décidé de démissionner, là, ça brasse. L'arrivée de Donald Trump, la chefferie libérale. C'est comme si Donald Trump avait réussi quelque chose d'assez inédit au Québec, de rendre la politique fédérale intéressante. Puis moi, ça, ben, ça fait mon grand bonheur.
Ouais, t'es sûr que les gens accrochent vraiment? Parce que nous autres, on est comme excités. Il y a des gens qui ont embarqué dans le train, mais à quel point?
Tu sais, j'ai jamais eu autant de questions. Quand les gens viennent nous parler, il y a comme un intérêt renouvelé parce que la chose américaine, la menace tarifaire de Donald Trump, j'ai comme l'impression que ça rend la politique fédérale très concrète. On a tendance à dire « Oh, le fédéral, c'est loin de nous autres, ça gère pas nos écoles, ça gère pas notre système de santé, ça gère pas la collecte des ordures comme les municipalités, ça gère pas les parcs, ça gère quoi? » Dans le fond, on le sait pas trop, mais là, dans le contexte actuel, avec la menace tarifaire de Donald Trump, avec la situation géopolitique à l'international qui se passe, c'est comme si les gens porter davantage attention à ce qui se passe.
C'est comme si, puis bien honnêtement, là, je considère pas les Américains comme étant des ennemis, là, mais c'est comme si on avait un ennemi commun à la grandeur du Canada. Puis là, on voulait savoir qui allait être celui qui allait se bagarrer dans le ring contre le gros orange l'autre bord.
Mais une des raisons pourquoi le nationalisme canadien n'a jamais été très, très fort, c'est qu'on n'a jamais vraiment eu besoin de se défendre dans la vie. Hein. Depuis la Confédération en 1867, oui, on a participé à des grandes guerres internationales, on est allé aider nos alliés en Europe, mais on n'a jamais vraiment eu à défendre la souveraineté de notre territoire. On n'a jamais vraiment eu à se défendre face aux États-Unis. Et là, c'est comme si, soudainement, il y a une montée du fédéralisme, une montée du sentiment identitaire canadien, bien, parce qu'on a besoin de se défendre. On appelle ça une guerre commerciale avec les États-Unis. On sent qu'il y a un besoin d'annexion, un désir d'annexion qui est lancé. Moi, je dis souvent, une fois, c'est une blague. Deux fois, c'est une mauvaise blague. Trois fois, il y a peut-être un fond de sérieux. Là,
ouais.
Donc, c'est important de prendre ces menaces-là sérieusement. Même si on s'entend, ça arrivera probablement pas. Mais tu sais, quand je prends une bière avec des chums puis qu'on est rendu au point de se dire, t'irais-tu te battre, toi, pour le Canada? C'est rendu. Mais c'est rendu particulier, pareil.
C'est pas fou de réfléchir ouais. quand même. Mais moi, je me dis, on a-tu été. Je m'excuse du terme, là, mais c'est celui qui est imbécile. Je pourrais dire imbécile, ça paraît comme moins sauvage et violent, mais imbécile de s'être assis sur une genre de protection qui était réservée par des alliés. Est-ce qu'on est imbécile de ne pas avoir travaillé en amont ou c'est quelque chose qui est colonisé dans nous? Je m'excuse, mais qu'est-ce qui s'est passé?
C'était notre grand frère. On le voyait vraiment comme le grand frère.
Oui, mais on est un peu colonisé, je veux dire, de ne pas avoir travaillé en amont sur des choses qui sont de base.
Ouais.
En même temps, moi, je n'irai pas jusqu'à où que vous allez. Mais
nous autres, on fait un spectacle, Jérémy. Là.
Pour une fois que c'est... Jérémy, pour une fois que c'est Pascal qui est toxique, hein? tu peux-tu y dire?
Non, mais, moi, je ne m'embarquerai pas là-dedans. Mais c'est vrai que dans l'histoire, on a tendance... En même temps, plus on investit en sécurité,
ouais.
moins on investit à renforcer le filet social, moins on met d'argent ouais. dans un système de santé universel, moins on met d'argent dans
Mais il y a les bases. On les a peut-être échappées. Mettons que je retourne un bon français.
Ben, en même temps, je veux dire, c'était pas la priorité non plus des Canadiens. Les politiciens vont souvent avec la priorité des Canadiens. Là, on voit que la question de l'ingérence étrangère refait surface aujourd'hui dans la campagne. Mark Carney fait une annonce en sécurité nationale pendant la journée. Donc, on voit que ça prend une grande place. Ça fait longtemps, d'ailleurs, qu'on n'a pas parlé autant de défense dans une campagne électorale.
Tu sais, puis tout est arrivé en même temps. Il y avait la guerre tarifaire avec les États-Unis contre le Canada, contre le Mexique, puis il y avait eu le tournoi des quatre nations, puis j'ai jamais vu autant de gens qui s'intéressaient pas au hockey s'intéresser à ce match-là entre le Canada et les États-Unis. C'est comme si...
J'ai jamais vu autant de gens chanter l'hymne national canadien, point final.
Oui, oui. Puis le match aussi qui avait débuté avec des bagarres, c'était comme n'importe quoi. Puis on est encore là-dedans. Mais c'est ça, les Canadiens semblent avoir trouvé un ennemi commun, puis tout le monde s'est rassemblé derrière le drapeau canadien. Puis là, reste à savoir qui sera le grand chef là, qui va remporter les élections dans quelques semaines. Y a-tu des bons coups et des moins bons coups dans les dernières heures, les derniers jours que tu voudrais nous jaser, Jérémy?
Des bons coups, ben tout le monde promène une baisse d'impôts. Je sais pas si ça rentre dans la catégorie bons coups. Je pense que c'est plus la surenchère de le mien est meilleur que le tien. Là, les conservateurs et les libéraux proposent des baisses d'impôts sur le premier palier. Donc ça veut dire que tout le monde en bénéficierait. Des moins bons coups, il y en a eu des deux bords. D'abord, Pierre Poilievre qui a refusé l'accès à sa caravane aux médias. Et ensuite, Mark Carney qui a décliné l'invitation de TVA. Pour le débat du face-à-face, il faut le dire, il va avoir un débat en français, il va avoir un débat en français, un débat en anglais qui est organisé par le consortium des médias, duquel TVA ne fait pas partie. TVA, on sait que c'est difficile dans le milieu des médias, demandait une cotisation de 75 000 $ par partie pour avoir accès à ce débat-là, pour organiser ce débat-là. On s'entend, ça a l'air gros, 300 000 $ pour organiser un débat, mais je suis pas mal certain que ça aurait coûté plus cher que ça à TVA de l'organiser. En même temps, on a envie de dire, ben si vous voulez que ça se fasse entrer dans le consortium, il y a comme tout plein de questions sous-jacentes. Eh bien, celui qui a l'odieux de refuser, c'est Mark Carney, parce que les libéraux font le pari que ça va être linguistiquement très difficile pour Mark Carney de se démarquer dans un contexte où il aurait été, par exemple, dans un face-à-face 20 minutes contre Pierre Poilievre, 20 minutes contre Yves-François Blanchet, alors que le français de Mark Carney n'est pas tout à fait au point.
Tu sais, j'en parlais avec...
C'est une question logistique, hein?
Oui, j'en parlais avec...
C'est une question logistique en arrière de ça.
J'en parlais avec Pascal tantôt en début d'émission pour ce qui est de Mark Carney. J'ai l'impression qu'il n'a pas été super bien conseillé parce que moi, j'aurais donné la raison, c'est-à-dire on ne veut pas créer de précédent à la grandeur du Canada, c'est-à-dire chaque fois qu'on veut faire un débat, il faut déplier 75 000 $. Le 75 000 $, c'est de l'argent qui appartient à nos membres qui nous ont donné. Fait qu'on veut l'utiliser de façon judicieuse, puis de donner constamment dans chaque province un 75 000 $, on n'en finira pas. J'aurais utilisé ce prétexte-là. Mais de l'autre côté, Jérémy, dire non...
Appeler un chat, là. À un moment donné, il faut dire...
Dire non
donné,
à TVA.
Dire les vraies affaires.
Dire non à TVA, là, je ne sais pas si toi... Ben, je ne veux pas t'embarquer là-dedans, tiens. Ce que j'ai remarqué, c'est que les papiers sur Mark Carney sont moins positifs qu'ils étaient depuis son refus, là.
C'est sûr que c'est dangereux de dire non à TVA.
Exact.
En même temps, moi, comme je le disais, Pierre Poilievre aussi a dit non à TVA. Là, Raymond Filion, puis les journalistes qui couvrent la colline parlementaire n'ont pas accès à sa caravane.
Ouais.
Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un peu un mauvais coup des deux côtés. Je ne sais pas si ça va coller à l'image de Mark Carney. Certainement, on a vu tous les partis s'insurger. On a vu le Bloc québécois prendre une planche de 2x4 puis commencer à swinguer fort. C'est sûr et certain. En même temps, l'équipe de Mark Carney font le pari qu'ils sont tellement installés confortablement en avance que ce qui pourrait faire mal à Mark Carney encore plus, c'est une mauvaise performance au TVA face à face.
Là, il va avoir un débat ailleurs.
En français. Il va avoir un débat TVA, il va avoir un débat en anglais, mais tu peux difficilement te remettre d'un KO face à face au Québec.
Je comprends. En même temps, je veux dire, il va falloir qu'il aille faire un débat. Il ne peut pas tous les tasser, les repousser du revers de la main.
Non, mais il en fait. Il y a déjà. Il y a peut-être un petit peu à préciser, mais il en fait, là. Il va avoir un débat en français, un débat en anglais. C'est une campagne qui est très, très courte. On parle de 36 jours de campagne. Là-dedans, il y a le 16 et le 17 avril où ce que Mark Carney va être au débat à Montréal. Donc ça veut dire que ces jours-là, il n'est pas en train de faire une campagne. Si on ajoutait en plus de ça le 9 avril un débat à Montréal, ben là, il aurait été à Montréal le 7, le 8, le 9, le 15, le 16, le 17. Ajoutez à ça le vote par anticipation, puis le vote, le jour du vote, perdez à peu près un tiers de votre campagne à vous préparer pour des débats électoraux à la place d'être sur le terrain. Donc, ça aussi, ça l'a pesé probablement dans la balance du côté des libéraux.
Ouais, si je te disais cette affirmation-là suivante, c'est-à-dire Poilievre doit se distancer de Donald Trump et Mark Carney se doit se distancer du programme du Parti conservateur, est-ce que tu es d'accord?
Ah ben, en fait, Mark Carney doit se distancer de l'ère de Justin Trudeau. C'est probablement ça qu'il essaie de faire.
Mais de faire des promesses qui appartiennent aux conservateurs, je trouve ça particulier. Puis tellement qu'il y a un journaliste qui a demandé à Mark Carney dans les dernières heures, ben là, l'histoire des baisses d'impôts et tout ça, pourquoi vous n'êtes pas présenté pour le Parti conservateur, tout simplement? C'est l'abolition de la taxe carbone et tout ça. Puis Mark Carney a semblé très gêné par la question. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il se distance de ça, là, puis qu'il ressemble peut-être plus au programme des libéraux en tant que tel.
J'appelle Mark Carney le Stephen Harper libéral. Mark Carney, c'est un conservateur économique et un libéral social. Donc, c'est probablement plus un libéral comme on a pu voir par le passé, notamment avec un Paul Martin. Justin Trudeau aussi, par ailleurs, avait fait des baisses de taxes. Je pense pas que le Parti conservateur a le monopole sur les baisses de taxes. Vous rappelez aussi qu'en 1991, c'est le Parti conservateur de Brian Mulroney qui avait mis la TPS en place. Donc, c'est pas juste le parti qui coupe des taxes dans la vie. Il en a mis par le passé. Mais Mark Carney va devoir se distancer de l'ère de Justin Trudeau sans tourner complètement le dos aux progressistes, parce que ce qui fait en sorte que le vote rouge est très fort présentement, c'est que il y a des voteurs du NPD et du Bloc québécois qui ont transféré chez les libéraux. Donc, faut pas perdre ça en chemin. De l'autre côté, Pierre Poilievre, il y a des électrons libres dans son camp. Pensons notamment à Daniel Smith en entrevue qui a dit avoir demandé à Donald Trump d'arrêter les attaques sur le Canada parce que M. Poilievre et lui sont sur la même longueur d'onde. Ça l'aide pas Pierre Poilievre dans sa campagne, parce que c'est sûr et certain que les libéraux vont en faire leur chou gras, vont répéter ça ad nauseam pendant la campagne. Donc, M. Poilievre, qui avait bien réussi jusqu'à date à essayer quand même de garder Donald Trump à une certaine distance de bras, là, ben, se fait un peu, c'est un tir ami qu'il reçoit parce que Mme Smith est dans son camp et là va dire quelque chose comme ça lui fait très mal. Alors qu'à l'inverse, Doug Ford en Ontario, lui, reste assis sur ses deux mains. Sa machine électorale a eu la commande de ne pas faire campagne avec Pierre Poilievre. Donc, il faut qu'il conjugue à la fois dans son camp ceux qui aiment ce qu'ils voient au sud de la frontière et ceux qui n'aiment pas ce qu'ils voient au sud de la frontière.
Je regardais le sondage d'Anos là, qui parlait des intentions de vote par tranche d'âge. Les 18 à 29 ans, c'est le Parti conservateur qui trône à 40% contre 23% pour le Parti libéral. Les 30 à 39 ans, c'est 35% Parti conservateur contre 26% pour le Parti libéral. 40 à 49 ans, c'est presque 40% pour le Parti conservateur, 30% pour le Parti libéral. Là, la catégorie 50-59, ça commence à se ressembler pas mal. C'est 43% pour le Parti conservateur, 34% pour le Parti libéral. Et les 60 ans et plus, Jérémy Guillaume, ce qui m'a impressionné, c'est que les libéraux qui trônent au sommet avec 50% des gens de 60 ans et plus qui veulent le Parti libéral. Exact, c'est eux qui votent, contrairement à 29%. Est-ce que Pierre Poilievre devrait parler aux plus vieux?
Pierre Poilievre, il y a un problème de message en ce moment. Moi, souvent, quand j'analyse un événement politique, je me fais une grille dans mon cahier, puis je me dis ce que je veux voir. Puis pour Pierre Poilievre, ce que je voulais voir depuis le début de la campagne, c'est est-ce qu'il est capable de faire un pivot dans son discours? Il nous sert du remarché qu'on a entendu depuis les deux dernières années. Est-ce qu'il est capable d'adoucir le ton et de se présenter plus en premier ministre qu'en chef de l'opposition? Parce que quand on agit comme un chef de l'opposition, souvent, c'est la meilleure façon de rester. Pour l'instant, j'ai pas vu ça encore. Et l'autre chose que je voulais voir, c'était est-ce qu'il est capable de nous présenter une équipe? Parce que M. Poilievre, il arrive souvent seul et ça non plus. Donc, pour moi, s'il est pas capable de faire ces trois choses-là, ça va être difficile de prendre davantage de votes, parce que le vote des conservateurs, il est relativement stable depuis les dernières semaines, les derniers mois. Il bouge pas, le vote des conservateurs, mais c'est comme s'il avait frappé un plafond qui est plus bas que le plafond des libéraux. On voit en plus la situation au Québec. En ce moment, au Québec, c'est quelque chose d'intéressant qui se passe, parce que le dernier léger place les libéraux à 41% et le Bloc québécois à 23%. Ça me fait penser aux résultats des élections de 2011. Le Bloc québécois était à 23% et le NPD était à 42% lors de la vague orange en 2011. Ça, c'est un territoire qui est très dangereux pour le Bloc, parce que quand on flirte avec la ligne du 23-24% au Bloc québécois, des fois, c'est un pourcentage qui fait toute la différence entre perdre une dizaine de sièges. Donc là, c'est pour ça qu'on va commencer à avoir un Yves-François Blanchet peut-être plus nerveux, plus combatif aussi.
Il n'est pas déjà... Il y en a qui ont sorti leur jingle, dont c'est le Bloc, je pense, qu'il a sorti dans les dernières heures. Pas leur meilleur, ça aurait pu être un petit peu plus dynamique. Mais en terminant, Jérémy, j'ai une question.
C'est jamais bon, des jingles de campagne.
Pardon?
Moi, j'ai jamais aimé ça.
Pardon?
Ben, c'est bon, ça peut faire rire.
Pardon?
C'est très rare qu'on dise « Oh, wow, quel bon jingle! »
Moi, c'est parmi mes délices politiques favoris. Je te dirais, si c'est pas la première position, ça va être la deuxième. mais honnêtement, Jérémy, c'est ta première fois, je pense, hors campagne, implication politique du genre, t'es en arrière des politiciens pour gérer... cette dite campagne-là. Comment tu te sens dans l'analyse de tout ça? Est-ce que c'est une grande différence d'être derrière que d'être dans l'analyse en ce moment?
C'est la première fois depuis 2012, effectivement, donc depuis 13 ans, que je ne fais pas une campagne impliquée d'une façon ou d'une autre en politique. C'est bizarre. Au début, j'ai un peu eu le sentiment d'avoir peur de manquer quelque chose. Je commence à m'y faire. C'est intéressant de l'analyser. Puis honnêtement, j'aurais pas pu choisir une meilleure campagne, je pense, au niveau rebondissement pour suivre de l'extérieur.
Non, ça bouge. Mmh. Ça bouge comme pas possible. Puis on manque pas de contenu pour cette campagne électorale fédérale-là. Puis je pense pas que ça s'estompe jusqu'à temps qu'on mette au pouvoir celui qui sera choisi par les Canadiens. Jérémy Guillot, c'est toujours un plaisir.
Ben merci, c'est toujours un plaisir pareillement pour moi.
Puis je m'excuse pour Pascal, des fois elle raide un peu.
Ah, franchement! J'en profite!
Salut!
On a du fun, bye-bye.
Salut, merci.
Hey, t'étais content que je sois toxique pour une fois?
Ben oui, ça super. Brasse, j'aime moi, ça quand ça brasse.
Moi, je t'inquiète.
Pourquoi?
Si t'étais content de quelque chose de ma part, ouais. Je suis inquiète, faut que je revoie un peu mon énergie.
Mais t'es-tu d'accord avec moi que le tournoi des quatre nations, là, il a été suivi comme pas possible au Canada en raison du contexte actuel? Il y a des gens qui ne suivent pas le hockey, qui étaient intéressés par le tournoi des quatre nations.
Mais Reggie et moi, c'était ça.
Les matchs entre le Canada et les États-Unis.
Reggie et moi, on est devenus deux personnes. On a changé de personnalité. Fait que je peux pas croire qu'on est les seuls.
Non, c'est vrai. Tu voulais qu'à la finale, tu voulais que les gars se battent. Non? Je te disais non, Pascal. Non,
ça, c'est
pas
faux.
Bon.
J'ai été toxique dans les dernières secondes, mais pas à ce point-là.
Midi 58. 418-971-1021, s'il se passe quoi que ce soit, les amis, sur la route. Merci d'être nos yeux, nos oreilles. On vient. 102.